Et on reçoit tout de suite un Iron dans l'émission Dialogue entre communes.
Bonsoir. Près de deux ans après l'instauration en RDC de la taxe de fonds de développement pour les infrastructures aéroportuaires IBS, quel bilan dressé de la gestion des fonds issus de cette taxe perçue par la Régie des voies aériennes RVA? Nos invités dans cette émission sont Modeste Bahati-Mukwebo, député national de la majorité présidentielle et président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Il est aussi opérateur économique. Emmanuel Mwamba Sabisi, administrateur, directeur financier de la Régie des voies aériennes RVA. Monsieur l'ADF, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Honorable Bahati, bonsoir également.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà. Il y a également André Moloto, analyste économique. Il est maître de conférence à l'Université protestante au Congo, faculté des sciences économiques. Monsieur Moloto, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, monsieur.
Et vous, chers auditeurs et internautes, comme d'habitude, vos réactions nous sont déjà parvenues. Maître Adrien Ilobakwe de Kananga, au Kasaï occidental. Le bilan est largement négatif car rien n'est fait. Nos aéroports continuent à se dégrader davantage, comme qui dirait avant le paiement de cette taxe égale après le paiement. Douglas Kinshasa, la gestion de l'IDF est floue et cette taxe est trop chère pour les vols inter-africains. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La taxe des fonds de développement pour les infrastructures aéroportuaires IDF en sigle fait parler d'elle ce dernier jour. La semaine dernière, lors d'un entretien télévisé dans une station locale, le ministre ad intérim des Transports et Voies de Communication évoquait la mise en place d'une commission afin de faire la lumière sur l'utilisation de ces fonds. Martin Kabouéloulou veut par là avoir la certitude que les 10 dollars versés par chaque passager pour des vols nationaux et les 50 dollars par des passagers pour des vols internationaux servent exactement à la mission leur assignée. Jacques-Yves Molima pour les détails.
Avec près de 7 compagnies d'aviation qui organisent des vols internationaux et de nombreuses lignes aériennes nationales empruntées par des centaines de voyageurs chaque jour, cette taxe semble être une bonne affaire. Elle a une moyenne de 100 passagers par vol international et 50 pour les vols nationaux. Cela donne une somme avoisinant 180 000 dollars américains perçus par semaine pour les vols internationaux et 21 000 dollars pour les nationaux. Addition faite, nous atteignons un montant d'au moins 804 000 dollars américains par mois. Et dans une année, la taxe IDF peut générer près de 15 millions de dollars. Et ça, c'est juste au départ de l'aéroport de Dili. S'il faut compter les autres aéroports et aérodromes de la RDC, tout en notant que cette taxe existe depuis 2009, la cagnotte peut être plus importante et juteuse. Où va alors cet argent versé par les compagnies aériennes exploitant l'espace congolais? Institué pour la réfection des infrastructures aéroportuaires, le GOPAS, comme on l'appelle, ne semble pas servir pour cette fin, s'inquiète les passagers qui constatent que les choses n'ont pas assez bougé comme souhaité.
Merci Jacques-Yves Molima. Emmanuel Mwamba Sabiti, je rappelle que vous êtes administrateur, directeur financier de la Régie des voies aériennes RVA. Voilà près de deux ans que la taxe IDF a été instaurée pour servir à la modernisation des aéroports. Est-ce qu'on peut savoir à combien s'élève le montant perçu par la RVA depuis 2009 et où va cet argent?
Bien, merci. Encore une fois, je tenais à vous remercier, à porter de la lumière, n'est-ce pas, aux préoccupations de l'opinion publique. C'est vrai que cette opinion a besoin d'être informée, a besoin de la vérité, rien que la vérité. Bon, en guise de réponse à votre question, je dirais ceci. La réalisation des ouvrages aéroportuaires exige plus de moyens que la collecte de l'IDEF ne saurait apporter dans un court terme, d'où la recherche de financements à long terme à garantir par l'IDEF. Ceci afin d'accélérer la réalisation des ouvrages requis pour la mise en norme de nos aéroports. À titre exemplatif, pour avoir une piste complète en béton avec le système de balisage requis et autres dispositifs, qui coûterait par exemple 55 millions de dollars, il faudrait au moins 3 à 4 ans de collecte de diverses pour réunir les ressources nécessaires. Les statistiques, n'est-ce pas, telles qu'elles sont en train d'être avancées, n'est-ce pas, et n'engagent que, n'est-ce pas, l'auteur qui les a publiées. Parce que celui qui veut avoir les informations, le plus ample information, doit s'approcher de la régie des voies aériennes pour avoir le cœur net.
Alors, donnez-nous le chiffre qui est le vôtre, parce que vous êtes la source. Combien d'argent a été perçu depuis 2009 et à quoi ça servit?
Bon, depuis 2009, la régie des voies aériennes a collecté au titre de l'IDEF 39 millions de dollars. Et bien, ces 39 millions de dollars ont servi d'abord à financer les études qui sont préalables, n'est-ce pas, à tout ouvrage aéroportuaire, parce qu'il faut respecter les normes internationales édictées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Il y a eu le pavillon présidentiel. Mais vous-même, vous l'avez suivi, vous avez vu de notre temps, les pavillons étaient inaugurés. Il y a eu le début des travaux sur la piste par la société Sogea Satom. Il y a eu des bétonnages de 11 000 mètres, 11 100 mètres plutôt. Eh bien, écoutez, c'est par manque de financement que les travaux sont restés inachevés. Il y a également, n'est-ce pas, la piste de quoi de Moanda. Nous avons ensemble avec pour financer, n'est-ce pas, les travaux de cette piste avec Perenco, donc la société Perenco. Voilà, d'une façon ramassée, n'est-ce pas, à quoi a servi, n'est-ce pas, ce fonds-là. Et puis, il faudra savoir qu'il fallait aussi garantir les crédits relais obtenus de nos différentes banques.
Donc, à ce jour, concrètement, il n'y a aucun aéroport qui a été modernisé.
Mais moi, je vous dis sincèrement, si vous avez la moyenne de 18 millions l'an, et on vous dit qu'une seule piste peut coûter 55 millions, il faudra combien de temps pour la réalisation de ceci? Je voulais vous dire que la construction des aéroports, la modernisation de l'aéroport, n'est-ce pas, est très coûteuse, que seul l'IDEF ne saurait pas, à court terme, n'est-ce pas, financer ces travaux-là. Donc, il faut quand même un temps pour pouvoir réaliser. Parce que ce qu'on est en train de collecter au jour les jours, on n'arrive pas à les collecter à une seule fois pour avoir 50 millions. Il faut quand même, pour arriver à avoir 20 millions, il faut un minimum d'une année. Alors d'où, c'est difficile de voir à l'espace de deux ans, voir déjà les ouvrages tels que le texte est en train de le faire.
Alors, Emmanuel Mwamba, ADF de la RVA, d'après certaines sources au ministère des Transports, le ministre Kabouéloulou, qui assure l'intérim dans ce ministère, a accordé à la fin du mois de mai un délai d'au moins 10 jours aux responsables de la RVA pour lui présenter la situation financière relative au paiement de l'IDEF. Pourquoi cela n'a pas été fait?
Mon frère, si je peux vous donner la référence de la lettre, bon, excusez-moi, je suis déjà à l'aéroport. Déjà, le ministre nous a demandé les rapports sur les pavillons présidentiels par notre courrier, numéro RVADC, /1501/2011, du 27 mai 2011. Nous avons transmis cette situation directement à son excellence, monsieur le ministre des Transports et Voies des Communications. Et dans cette situation, nous avons eu à relever les fonds collectés et à quoi ont servi. Voilà.
Merci. Modeste Bahati Lukwebo, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle, président du parti AFDC, également opérateur économique. Vous venez de suivre l'ADF Emmanuel Mwamba. Comment vous analysez ces réponses et quel est votre commentaire au sujet de la taxe IDEF?
Bon, je note d'abord une contradiction dans ce que dit l'ADF, parce qu'avant il a dit que ce fonds-là devait garantir certains crédits, certains financements. Mais en même temps, il a énuméré une série de tâches déjà accomplies en mandat et je ne sais où encore. Bon, il est vrai qu'un fonds de nantissement peut être renégocié sous forme d'escompte auprès d'une banque, mais là, il faut qu'il le dise clairement que on peut obtenir une garantie bancaire qui peut en fait être délivré aux financiers extérieurs, quitte à ce que localement sous forme d'escompte, la même banque puisse financer certains travaux, bien sûr, moyennant paiement des intérêts. Et ce que je voudrais dire, c'est ceci. Il y a un aspect moral et il y a un aspect social dans l'IDF. Moi, en tant qu'économiste, bien sûr, je ne peux que soutenir l'idée d'une taxe si réellement elle sert à l'objectif pour lequel elle a été créée, c'est-à-dire la modernisation des infrastructures aéroportuaires. Par infrastructure aéroportuaire, nous entendons ici la piste d'atterrissage, les installations aéroportuaires et mettre les passagers d'une manière générale dans de bonnes conditions de voyage, de bonnes conditions sécuritaires. Or, selon les informations que nous avons lues dans un des journaux paraissant ici à Kinshasa, on avait dénoncé que cette IDF avait servi pour la construction du pavillon présidentiel. Bon, là, le problème se pose en termes de morale. La taxe, elle est perçue sur les voyages. La plupart des voyageurs passent par soit le salon officiel, soit par le salon ordinaire et pas par le salon présidentiel. Partant de cette réalité-là, donc il n'y a que les cotisants, les personnes qui participent à la constitution de ce fonds qui doivent en bénéficier et en tirer les avantages. Lorsque on veut flatter l'autorité, prenant un fonds qui aurait pu servir aux passagers, tous les Congolais, tous les étrangers qui passent par l'aéroport, on va ériger le pavillon présidentiel. Et le montant qui a été publié par la presse, qui n'a jamais été démenti, de 17 millions de dollars, tout le monde avait trouvé que c'était excessif. Moi-même, je suis dans les constructions, je sais que ce pavillon-là ne peut pas coûter ce montant-là. Et donc, il se pose là un problème sérieux. Je pense que, au lieu de demander à ce que le budget de l'État puisse programmer la construction du pavillon présidentiel et que cela puisse émarger au budget de l'État, ce qui est un droit et même une obligation, les autorités de la RVA, couvertes par la tutelle du ministère du portefeuille et du ministère des Transports, ont préféré flatter l'autorité, mais derrière cette flatterie, vous comprenez qu'il doit y avoir eu des détournements de sommes énormes. Et ça, nous dénonçons, nous les voyageurs, parce que la taxe doit nous profiter, nous qui passons par les salons ordinaires. Et donc, ce que dit l'ADF, je pense qu'il doit réviser un peu sa note en nous disant exactement par quelle autorisation Est-ce qu'il avait programmé de construire avec l'IDF le pavillon présidentiel?
Honorable Baraki, il y a cet auditeur Guillaume de Mahagui en province orientale qui se demande à quoi a servi la perception de cette taxe 2 ans durant. Honorable Baraki.
Oui, je vous écoute.
Excusez-nous, si vous avez un poste radio à côté, veuillez carrément l'éteindre pour éviter les effets néfastes qu'on entend à l'antenne. Vous pouvez nous suivre sur votre téléphone. Je disais qu'il y a cet auditeur Guillaume de Mahagui qui dit à quoi a servi la perception de cette taxe 2 ans durant. Quelles sont les preuves fournies par la RVA à l'opinion publique qui a un droit de regard sur son utilisation? En parlant de droit de regard, vous êtes quand même député honorable Baraki. Quelle démarche a été faite, menée ou menée au niveau de l'Assemblée nationale pour voir un peu plus clair dans la gestion de ces fonds?
Bon, il faut dire que nous, on n'a pas constitué une commission d'enquête pour voir quelle a été l'utilisation de ces fonds, mais nous avons suivi seulement par la voie de presse. C'est-à-dire, il y a eu des publications dans un journal qui indiquait que l'IDF a été détournée et a été utilisée pour construire le pavillon présidentiel. Et moi, je dis, si tel est le cas, c'est un détournement plus récent parce que l'IDF n'a pas été créée pour ça. L'IDF a été créée pour les citoyens ordinaires. qui prennent les installations aéroportuaires.
Merci.
Quand nous voulons construire un pavillon présidentiel, nous devons être fiers de prélever cela dans le budget de l'État, le budget général de l'État.
Merci.
Il n'y a pas de honte, il faut à tout prix que cette écriture soit extournée, que les fonds viennent du trésor public et qu'on reconstitue l'IDF pour servir ce à quoi il a été créé.
Merci, honorable Bahati. André Moloto, vous êtes analyste économique, maître de conférences à l'Université protestante au Congo, faculté des sciences économiques. Quelle est votre analyse à ce niveau? André Moloto? Voilà, nous avons quelques soucis avec sa ligne. La réalisation va tenter de le retrouver. Emmanuel Mwambasabiti, on vous reprend juste après cette question qui vous est destinée.
Christian Limbeche Kisangani, à la province orientale. L'État de nos aéroports trouve en suffisance que les fonds des IDS qui sont collectés servent non pas au bénéfice des aéroports, mais pour engraisser les ventres de certains gestionnaires. Et le silence des autorités hiérarchiques est pour dire véritablement qu'ils sont impliqués dans cette affaire.
Et j'ajoute à cette réaction celle de l'honorable Paulin Odiane du Sirou en province orientale. La taxe IDF apparaît comme une véritable escroquerie instituée par le gouvernement dans le but de piller la population. À Isiro comme à Kisangani, il n'existe aucune réalisation fruit de cette taxe. Réaction à Emmanuel Mwamba.
Je suis en train de...
Emmanuel Mwamba?
Oui, je suis en train de vous écouter. Bon, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait ces différentes réactions quand il y a certaines personnes ne suivent pas des émissions élaborées, n'est-ce pas, et spécialisées plutôt, au cours desquelles nous communiquons, n'est-ce pas, les chiffres réalisés et à quoi a servi, n'est-ce pas, donc cet argent-là. Je tiens à informer le public que la RVA, n'est-ce pas, collecte cette idée fait par le biais de banques. Ici, je cite la BIAC, je cite la Rawbank, là où elles sont déployées, et dans les cadres de l'IDF passager, et je cite Access Bank dans les cadres, n'est-ce pas, de l'IDF fret. Et on sait bien récracher, n'est-ce pas, toutes les structures au sein de ces banques-là. Et là où les banques ne sont pas déployées, c'est le service de l'RDA qui, n'est-ce pas, collecte et reverse, n'est-ce pas, dans ces banques-là. Toute personne, n'est-ce pas, même par l'honorable Bahati, par le biais peut-être de l'Assemblée nationale, peut retrouver, retracer, n'est-ce pas, l'historique de tous ces fonds au sein de banques. J'ai cité Access Bank, Rawbank et l'Aviat.
Mais
là, on sait voir, n'est-ce pas, les fonds, de quelle manière, et donc ces fonds sont collectés.
Mais l'honorable Bahati a posé tout à l'heure un problème moral. Pourquoi ça a été prélevé pour la construction du pavillon présidentiel?
Il fallait d'abord préciser de quelle manière donc, est perçu l'IDEF, parce que ici, quelqu'un a dit, et ça n'engage que lui, parce que c'est une... comment je peux appeler ça? Et je crois que ça peut être de la calomnie quand on dit que ça a servi à engraisser les autorités, parce qu'il fait bien retrouver les passés dans les banques que je venais d'énumérer. Je reviens, n'est-ce pas, sur les problèmes moraux auxquels a fait allusion l'honorable Bahati. L'honorable Bahati se souviendra qu'au mois de mai 2009, il y a eu lancement des travaux sur la piste de l'aéroport international d'Ndjili. Vous savez que cette pièce, elle est vieille de plus de 50 ans, il fallait quand même la refaire. Nous avions commencé les travaux avec le financement qui était, bon, du moins, nous avions sollicité le financement auprès de la DBSA, une banque sud-africaine. Cette banque-là a accepté de financer les travaux de la piste qui avoisinait 50 millions de dollars. Et l'une des conditions, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse lancer le financement, il fallait externaliser le fonds en Afrique du Sud. Dans notre banque, bien sûr, la banque de la régie des voies aériennes. C'est ce qui a été fait. Mais alors qu'on s'attendait au décaissement des fonds par la BBSA, il y a eu, n'est-ce pas, la saisie et donc de notre compte en Afrique du Sud. Pourquoi ce compte a été saisi? Ce compte a été saisi parce que le gouvernement congolais, n'est-ce pas, dans une affaire contre la société Identigarde, une société qui avait fourni en 2000 les plaques minéralogiques et les timbres fiscaux à l'État congolais, et cette commande jusqu'à ce jour n'a jamais été honorée. Nos fonds ont été saisis en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, il fallait donc informer tous les différents ministères, et on a pris un avocat et que jusqu'aujourd'hui nous avons gagné, n'est-ce pas, au premier degré, parce que nous avons su démontrer, n'est-ce pas, à la justice sud-africaine que la régie des voies aériennes avait une personnalité distincte, n'est-ce pas, de celle de l'État congolais. Mais cette société a interjeté l'appel, nous sommes aujourd'hui donc en appel envers eux. Et en ce moment-là, quand la banque sud-africaine a vu que les fonds étaient saisis, alors elle était frileuse, elle a pris du recul, c'est comme ça qu'elle n'avait plus donc déboursé ces fonds-là pour financer, alors que les garanties qui leur étaient offertes, c'était, n'est-ce pas, l'IDES.
Voilà
pourquoi, n'est-ce pas, le travail sur la piste, n'est-ce pas, entraîné. Dans l'entretemps, il y avait ce projet-là, donc ce projet du pavillon présidentiel.
Voilà.
Mais ici, donc, je crois que il ne me revient pas à moi de dire, n'est-ce pas, que bon, pourquoi ce choix a été fait, donc, parce que je ne suis que là, il s'est dit,
voilà, voilà, donc on comprend que c'est un choix politique, en fait. Voilà. André Moloto, vous êtes analyste économique, est-ce que vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, je suis avec vous, oui.
Alors, quelle est votre analyse à ce niveau?
Ben, écoutez, il est difficile de faire les affaires en RDC en raison, entre autres choses, a dit l'ambassadeur de France qui quitte la RDC en raison, entre autres choses, du gouvernement de ce pays. Donc, même le dernier rapport de la Banque mondiale d'ONU dit le problème socio-économique que la RDC connaît est dû à l'absence des infrastructures de qualité. Donc, l'objectif de l'investissement public dans les infrastructures de transport et communication étant le désenclavement du pays, le débat ici est sans objet. Cela d'autant plus que tous les économistes admettent que les infrastructures sont le lit de l'investissement privé. Hein, monsieur l'honorable Barak qui est là, peut vous le confirmer. Donc là, il n'y a pas les débats. Mais le problème réside, comme l'a dit l'honorable Barak, dans les priorités que l'ADOS nous a données. Regardez les études, mais de quel aéroport, il ne dit pas. Pavillon présidentiel. Mais ça a coûté combien? Ça fait l'objet de ces débats et de spéculations. Il y en a qui disent que le prix au départ était 3 millions et ça a coûté 5, 6 fois plus. Mais c'est pas bien éclairé. Bon, l'aéroport de Mwanga. Qu'est-ce que l'aéroport de Mwanga apporte comparativement à l'aéroport de Goma, par exemple? Donc voilà les priorités. Et puis garantir le crédit remet pour avoir le financement. Mais oui, mais c'est l'État qui garantit vis-à-vis de la banque. Ça, c'est le crédit qu'ils ont eu au niveau de la banque. Donc, les réponses là ne sont pas satisfaisantes. Il peut dire ici combien ça a coûté finalement le pavillon du président qu'on a fait à la Barbie pour les fêtes de 50 mètres et qui n'utilise même plus maintenant parce que ça change de partout. Donc voilà un peu. Alors, ce que je voulais dire. Mais alors, l'honorable Baët l'a dit. Je confirme que le problème réside dans les priorités. À quoi en service cette taxe? Vraiment, c'est pas clair. Hein? Bon, alors, à cela, j'ajoute encore un autre rapport. Parce qu'on parle de l'Afrique du Sud. L'ONG aussi, ça. Vous l'avez répercuté dans vos ondes. Vient de faire un rapport en disant ceci, qui dit ceci, c'est clair, après le bon business de la Banque mondiale. Il dit ceci, il est difficile d'admettre les avancées démocratiques en RDC tant que le Parlement ne contrôle pas les gouvernements. Combien de fois les ministres du portefeuille a été interpellé au sujet de la RDA, que ce soit au Sénat ou bien à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas de résultat à ça. Il n'y a pas de résultat. Et c'est ce que dit encore la Banque mondiale. C'est que le problème de la RDC, c'est qu'il n'y a pas. Il y a absence d'efficacité dans l'action du gouvernement. Hormis les plans d'affaires, c'était les trois jours. Et vous avez fait un débat là-dessus. Voilà mon opinion là-dessus. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair du tout l'utilisation de cette taxe-là.
Voilà, nous avons l'ADF dans cette émission. Il pourrait nous donner des réponses précises hein, quant au montant réel des travaux du financement des études, du pavillon présidentiel. Honorable Modeste Bahati, vous venez de suivre André Moloto qui souligne également hein, l'échec même du contrôle parlementaire.
Oui, tout à fait. Il a parfaitement raison. Je vais le dire aussi aux vos ondes que, effectivement, quelque part, nous, au niveau du Parlement, lorsqu'on regarde l'aspect contrôle, nous ne pouvons pas nous en réjouir parce que j'estime personnellement que nous aurions pu sanctionner, nous aurions pu aussi, au vu des faits qui ont été constatés. Mais le malheur de notre pays, et qui est aussi le malheur de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, c'est quoi? C'est que le pouvoir exécutif a toujours tendance à supplanter les deux autres pouvoirs, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif veut régenter les deux autres pouvoirs et il veut s'imposer. Et il utilise tous les moyens quant à ceux. Et là, je crois que avec la législature qui va venir, il faut que les choses changent. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Moloto quant à son analyse. Et je confirme effectivement que ce qui a été fait pour l'IDF, c'est tout simplement de la courtisanerie, c'est-à-dire des gens qui veulent courtiser l'autorité suprême pour dire voilà, nous construisons ce bijou pour vous, ainsi de suite, pour accueillir vos autres démarches. Mais en réalité, quand vous suivez, vous entrez dans la profondeur du dossier, il vise des commissions, il vise beaucoup de choses dans le dossier. Et c'est ce qui explique le coût excessif. Moi, je suis presque rassuré que le coût, si c'est celui qui a été publié dans la presse, il est excessif. Ce pavillon-là ne peut pas coûter autant de millions de dollars. Si l'ADF pour nous donner les chiffres précis, nous pouvons lui démontrer. Nous sommes dans les constructions. Moi, je suis dans les constructions depuis plus de 20 ans. Et donc, je peux vous dire à peu près, lorsqu'on regarde la qualité des matériaux utilisés, à combien à peu près peut s'élever le montant d'une telle construction. Et en plus, l'ADF, s'il savait qu'il n'a aucun pouvoir, il ne doit pas venir aborder de telles questions. Nous avons beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de dossiers. Là, je suis en train de travailler sur le dossier de l'intégration économique en Afrique centrale et voir quel peut être l'apport des parlements. Mais j'ai accepté cette invitation parce que j'estimais que c'était une matière excessivement importante qui intéresse le peuple congolais. Il ne doit pas venir nous dire, voilà, moi je ne suis qu'un ADF. La décision appartient. Alors, qui la prend? Celui qui a la décision, celui qui a le pouvoir de nous donner les réponses au lieu de nous perdre notre temps.
Honorable Bahati, je pense qu'effectivement, on n'est pas en train de perdre le temps parce que les auditeurs qui vous suivent, ça leur permet de mieux comprendre cette question de l'IDF. Mais pour franchir le cap un peu politique, vous venez d'aborder la question, l'option de construire le pavillon présidentiel, on a compris, c'est une option politique. Vous êtes de la majorité, pourquoi vous n'assumez pas ce soir, par exemple?
J'assume, mais si les coûts sont acceptable, il n'est pas dit que parce qu'il s'agit de quelque chose qui est fait pour l'autorité suprême du pays, donc les gens doivent se graisser les pattes derrière ça. Deuxièmement, il n'est pas dit que parce que c'est quelque chose qui concerne l'autorité suprême, eh bien, on doit violer les principes, on doit détourner les fonds. Ah, c'est un détournement. L'IDS a été conçu pour des objectifs précis. Et je crois au départ, M. Assis avait donné une sorte de projet à quoi devait servir l'IDF. Mais le pavillon n'était pas dans ce projet-là. Et donc, ce que je suis en train de dire, je le dis en connaissance de cause.
Merci, honorable. Emmanuel Mwamba, je vous redonne la parole tout à l'heure, le temps d'adresser cette réaction qui vient de tomber pour André Moloto.
politiciens manquent de calibre au maniement, je ne suis pas surpris de constater que les bilans de la gestion des fonds issus de cette taxe est largement négatif, du moins concernant ma province du maniement, car l'état de l'aéroport de Kindu devient moins bon qu'il y a 2 ans. Je pense qu'un RDC, il ne suffit pas de créer des taxes, mais de veiller à la bonne canalisation des recettes, car la première des choses des agents de service et générateurs des recettes, c'est de chercher comment s'enrichir. Il vaut mieux restaurer la confiance du travailleur pour atteindre des lignes en service de qualité.
Réaction André Moloto.
Oui, mais c'est ce que je dis. Hein, les priorités, c'est pas Mwanda. Mwanda est à quelques ministres à cheval de Kinshasa. Pourquoi un aéroport là-bas? Tandis que bon, Maniema, il n'y a rien. À Goma, c'est risquant. Et nous pouvons avoir des haricots, des pommes de terre et tout de à partir de Goma. Hein? Ce sont les priorités. Le maire de je viens de vous confirmer. Il a été ministre du budget, mandataire public comme moi. Il y a des priorités. Et il nous confirme ici le pavillon présidentiel ne fait pas dans les priorités. Lui, il est dans les secrets de Dieu. Hein, il est séquestreur à l'Assemblée. Bon, il ne peut pas mentir, il abonde. Et je le félicite de son courage et de sa franchise. Hein, donc, vous savez, c'est l'absence de planification. Il doit y avoir la planification au niveau de l'État, des actions, avec des objectifs précis. Il doit y avoir la planification au niveau de l'entreprise aussi. La planification des actions. Mais ici, là, vraiment, et je partage absolument l'avis de monsieur du Manima, qui vient d'appeler. Alors, il y a une taxe pour la RDA, il faut créer une taxe aussi pour l'ONACA, non? Comme ça, l'ONACA peut aussi accéder au crédit, hein, pour le financement des bateaux, parce que le grand boulevard du fleuve Congo, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Alors, créer une taxe. Donc, vous voyez que quand même, ça ne va pas. Il faut qu'on nous l'a dit, que tout soit analysé au trésor public. C'est ça justement, la réforme autour de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, il y a 2 principes. Rendre compte, non, et transparence.
André Moloto, il y a cet auditeur Jackson Kiyembi, pardon, il y a cet auditeur, excusez-moi, je vais retrouver la question, oui, voilà, c'est Pepe Lissoundi qui s'en gagnait en province orientale, qui dit qui gère l'argent de cette taxe, car rien n'a été fait à l'aéroport de Bangoka. En plus, même les conditions sociales des agents de la RVA ne sont pas radieuses, ce qui me pousse tout simplement à demander la suspension de cette taxe. Et vous donnez cet avis.
Suspendre les taxes, comme ça, bon, écoute, je crois que l'honorable Barrette vous a dit, il a parlé de l'aspect moral de ça. C'est immoral.
Bon, alors, que le gouvernement prenne ses responsabilités, hein, c'est immoral. Mais sur le plan social, qui a aussi des problèmes? Que le gouvernement prenne les responsabilités. Au gouvernement, il y a le ministre du portefeuille, qui a des inspecteurs du portefeuille, qui doivent faire leur travail, ainsi que le ministre du transport. Et donc, ils peuvent prendre leurs responsabilités.
Alors, il y a également cet auditeur de Kinshasa, cet internaute, Jackson Kiyembi, qui lui dit « La taxe IDF ne peut-elle pas être gérée par la DGDA, l'ex-OFIDA, pour une gestion saine et plus transparente ?»
Mais les taxes sont gérées par le ministre des Finances. Hein ? Puisque entreprise, on va créer une taxe pour chaque entreprise d'État. Mais il n'y aura pas la bonne gouvernance économique, on n'en sortira pas. C'est le gouvernement, à moins que je parle sous contrôle de M. Baraki, qui a été ministre du budget, c'est le gouvernement qui garantit les emprunts extérieurs. Hein? Et les emprunts extérieurs vis-à-vis du BAC, vis-à-vis de la Banque mondiale, vis-à-vis des institutions internationales. Mais maintenant qu'on a accès, après qu'on nous a effacer notre dette. Mais l'objectif, c'était qu'on ait accès facile au financement international. Mais pourquoi tous ces micmacs là, crédit relais par telle banque privée ou telle autre? Non. Et il faut payer ça avec des intérêts encore. C'est trop lourd.
Voilà, pour ceux qui viennent de prendre cette émission en cours, nous faisons le bilan de la taxe IDES près de 2 ans après son instauration. Nos invités sont Emmanuel Mwamba-Sabiti, administrateur directeur financier de la Régie des voies aériennes RVA, Modeste Bahati Lukwebo, député national de la majorité présidentielle et président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, également opérateur économique, et André Moloto, analyste économique et maître des conférences à l'Université protestante au Congo, faculté des sciences économiques. Monsieur l'ADF Emmanuel Mwamba, il y a cette question récurrente qui revient sur les précisions, des précisions sur le coût exact des travaux du pavillon présidentiel et de ses études qu'a entamé la RVA.
Ok, bien merci monsieur le journaliste. Bon, je tiens d'abord à rassurer l'honorable Bahati qui a dit que bon, écoutez, je ne pouvais pas les inviter ou accepter parce que c'est une perte de temps. D'ailleurs, à vous, je vous dis que j'ai passé, j'ai voyagé, c'est vrai qu'il fallait peut-être qu'on se retrouve, mais à cela les tiennes. Étant donné que vous m'aviez contacté, j'ai accepté l'émission. Et là, je vous parle en étant à l'aéroport d'Indivi parce que je suis en train de partir. Bon, et...
Alors, combien a coûté le pavillon présidentiel?
Pardon?
Combien a coûté le pavillon présidentiel pour sa construction?
Bon, le pavillon présidentiel, juste au moment où nous parlons, donc on continue à payer les aides de ces pavillons-là. Et que la réception définitive n'a pas encore eu lieu. Il m'est difficile à ce stade de vous dire exactement ce qu'a coûté parce que la réception définitive donc doit avoir lieu. Mais je crois que dans une émission beaucoup plus élaborée, spécialisée, je ferai intervenir les ingénieurs de l'RVA en construction qui pourront vous donner tout le détail de ce qu'a coûté la charpente, de ce qu'a coûté le béton et autres. Là, ils peuvent bien vous les communiquer.
Alors, un autre
point. Là, c'est bien dommage, on m'a demandé d'embarquer déjà, donc on m'a fait pour l'embarquement.
Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Mwamba. Vous nous avez prévenu que vous étiez en train de voyager. Merci d'avoir accepté notre invitation, malgré votre emploi de temps chargé. Bon voyage en passant.
Merci, j'ai dit aux auditeurs, aux uns et aux autres, je crois que nous devons apporter la lumière, c'est ça le rôle de la Régie des voies aériennes. Mais je crois que nous devons y revenir dans des émissions télévisées, spécialisées, avec tout le détail possible pour apporter la lumière aux uns et aux autres. Et je
Merci.
Crois que la réaction, les différentes réactions de l'honorable Bahati, ainsi que celle de
Monsieur Moloto.
De Monsieur Moloto, mais ça montre l'intérêt, n'est-ce pas, qu'ils sont en train d'apporter pour le développement et la modernisation des infrastructures aéroportuaires.
Merci,
Emmanuel. Quand nous voyageons ailleurs, nous voyons de belles élances et de belles installations aéroportuaires, mais ce qu'il faudra dire ici, souligner que seul l'IDEF ne saurait pas, n'est-ce pas, qu'il en fait tous ces travaux-là, et à l'espace d'une année ou bien de 2 ans.
Merci.
C'est ce qu'il faudra souligner, d'autant plus que c'est la plupart, n'est-ce pas, de ces infrastructures actuelles, par exemple, celle des
Merci.
Plus de 50 ans.
Merci donc, beaucoup, Emmanuel Mwamba. Ne ratez pas votre avion. Bon voyage en passant, je le disais. Honorable Modeste Bahati, que faut-il finalement pour maximiser la gestion de toutes ces taxes?
Bon, d'abord, je souhaite un bon voyage à M. Mwamba, qu'il fasse un très bon voyage et qu'il nous rentre sans sauf. Mais je note aussi en passant que lui, en tant qu'ADF, il y a des chiffres qui doivent...
Honorable Bahati, voilà, des petits soucis avec la ligne de l'honorable Bahati. Monsieur André Moloto, vous parliez déjà d'un programme, il faut établir les priorités, il faut la bonne gouvernance, que faut-il de plus?
Mais c'est ce que tous les bailleurs de samedi, tous les rapports qui sortent, ne font que répéter la même chose. Hein? Pour, d'abord, l'infrastructure aéroportuaire, à aéroportuaire, je dis que là n'est pas le débat, mais les priorités là-dedans, quelles sont les
je n'ai pas de leçon à donner, d'autant plus que leur ADGN ou quoi, le professeur reprenne ainsi mon professeur. Je n'ai pas de leçon à lui donner, ils savent. Ma priorité est un report à réhabilité en priorité. Et je n'ai pas cette situation. Pourquoi tout ça? Expliquez-moi, pourquoi Kinshasa? Et pourquoi Kinshasa? Pourquoi Moanda? Les études, les chiens n'arrivent pas à dire, ils ont fait des études pour quel aéroport? Ah, ils n'ont pas fait part. Où est-ce que vous avez vu qui pouvait même dire, c'est un couteau de pavillon du président? À ce jour? Il a un chiffre. Pourquoi il a obtenu les ingénieurs?
Merci.
J'ai vu la DRS qui centralise tout. Vous voyez que c'est pas clair.
Merci André Moloto. Honorable Bahati, est-ce que vous nous suivez?
Maintenant, je vous suis. J'étais coupé. J'étais en train de souhaiter un bon voyage à la DRS. J'ai demandé qu'il nous soit de retour sans essence. Mais je disais également qu'en tant que ADF, il y a des chiffres qui doivent rester dans sa mémoire. Un dossier qui a fait couler autant d'encre dans la presse, lui ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'il n'a pas de chiffres, qu'il ne connaît pas ce qu'il a déjà déboursé à ce jour. Et c'est ça l'inconvénient d'être juge et parti. Si la RVA avait besoin de faire construire un pavillon, n'avait qu'à s'adresser au gouvernement qui a des structures spécialisées, le ministère des Travaux publics qui allait lancer des offres et faire le travail. Mais au jour d'aujourd'hui, nous dire qu'il faut attendre qu'on nous fasse le calcul de béton pour connaître ne plus que à quelle hauteur on se trouve, mais nous sommes inquiets, donc on ira au-delà des 17 millions qu'on a communiqué dans la presse, des 17 millions de dollars. Et ça, c'est dangereux. Je crois que nous ne pouvons plus continuer avec une telle gabegie. Il faut qu'on se ressaisisse. On ne peut pas continuer à dilapider des fonds publics comme ça. Et surtout des fonds qui ont été prélevés sur des maigres revenus, ceux des citoyens ordinaires.
Et ça engage la responsabilité de la majorité. Je disais que ça engage la responsabilité de la majorité présidentielle dont vous êtes membre.
Ça n'engage pas la majorité présidentielle. Est-ce que tous ces mandataires-là, quand ils gèrent au nom de la majorité présidentielle? Je crois qu'ici, il faut faire la part des choses. La majorité présidentielle peut proposer des candidats, mais la majorité n'a jamais dit que voilà, allez vous comporter de telle manière dans vos entreprises. Ils savent qu'il y a des textes qui régissent ces entreprises. Ils savent quels sont les principes de bonne gestion.
Merci.
Ils savent qu'il faut appliquer des systèmes managériaux qui convainquent pour qu'ils puissent mériter leur poste. Mais ce n'est pas de dire pas qu'on est de la majorité, ça n'a rien à voir.
Merci.
En matière de gestion, il n'y a pas de couleur politique.
Honorable Bahati, juste un mot en guise de conclusion, parce que l'émission va toucher à sa fin.
Juste un mot pour dire, contrairement à ce qu'un des compatriotes a dit qu'il faut supprimer l'IDF, moi je ne soutiendrai pas cette idée, parce que nous devons cultiver l'esprit du sacrifice pour que nous puissions réaliser de bonnes choses.
Merci, honorable.
C'est-à-dire, il faut qu'on maintienne quand même cette taxe, mais qu'elle soit bien gérée. Voilà.
Merci, honorable. André Moloto, un mot également pour conclure.
Mais oui, mais voilà, nous sommes tous d'accord, même le président, l'honorable Bahati, qui a parlé de plage de Béji,
mais il est temps que la justice se saisisse de cette affaire.
Merci.
Merci.
Merci André Moloto. Le temps, lui, ne nous attend pas. Fin de cette émission. Kevin Couté, Guy Maté et Samuel Kachak vous l'ont préparé sous la supervision rédactionnelle de Marc François Boujangoué. À la mise en monde, Alain Goy, supervision technique, Bob Landou, coordination et présentation, Alain Hiro Mouchige. Vous nous avez suivis. Nous vous disons merci et bonne soirée chez vous. Thank you.